Corps, amour, sexualité. Calibre, une émission en direct sur Radio Kaléidoscope.
Calibre, une antenne libre où poser des questions sans tabou ni jugement.
Tous les jeudis, de 20h à 21h, appelez-nous au 04 76 09 09 09.
Bonsoir.
Bonsoir. Alors, il est 20h sur Radio Kaléidoscope et c'est l'émission Calibre. Et à l'animation aujourd'hui, c'est Emma et Marty. Et en technique, on a Noémie et Lou.
Alors, on se marre un peu parce qu'a priori, il y a eu une petite bidouille technique. Je crois qu'on nous a entendu papoter ce qu'on croyait dire hors antenne. Non ? Ça va ? Bon, on verra bien. De toute façon, nos amis nous le diront. Qu'est-ce que c'est que cette émission ?
Alors, cette émission Calibre, c'est une libre antenne. Donc, on peut nous appeler pour raconter des trucs au 04 76 09 09 09. Et c'est plutôt une émission à tendance sans tabou ni jugement. Nous, on n'est pas des expertes de tout ce qu'on raconte. Hein. Du coup, vous êtes autant maîtres de ce qui se passe dans cette émission que nous.
Et c'est une émission qui parle des thématiques qui ont été annoncées dans le jingle, donc corps, amour, sexualité, au sens large, et tout ce qu'on peut se poser comme question sur les relations, le rapport à nos corps, aux sexualités avec un S, à l'amour, enfin voilà. Et du coup, voilà, effectivement, c'est une libre antenne. Alors, appelez-nous si vous avez envie de passer des coups de gueule, poser des questions, raconter vos expériences, partager un certain nombre de choses. C'est possible, l'espace est ouvert.
Ce soir, c'est une thématique.
Voilà, soir, c'est une émission thématique. C'est un peu particulier. Du coup, ce soir, on parle de modifications corporelles. Donc, on va parler de tout ce qui touche aux transformations du corps, plutôt choisies. Et on va vous raconter tout ça. On va faire une introduction, là, juste après avoir écouté un petit morceau de musique. En tout cas, voilà la thématique de ce soir. Et on a même un quiz. Voilà.
Alors, je l'ai demandé maintenant.
Oh, bah tiens, pourquoi pas.
Oui. C'est une pratique dont on n'en parlera pas, on vous laissera le secret jusqu'à la fin de l'émission. Et le quiz, c'est qu'est-ce que le branding ?
Voilà.
Si vous savez ce que c'est, bon bah du coup c'est une modification corporelle, mais laquelle ? En quoi ça consiste ?
Appelez-nous.
Vous pouvez nous appeler.
Au 04 76 09 09 09. Et là, on écoute The Tiger Lilies, The Freaks.
Welcome to the Carnival of Circus Freaks. The bleeding lady, the blood from her leaks. Here is a place where you can buy crack. Lobotomized whores who you can slap. The freaks. The freaks. The snake woman drinks 6 bottles of gin. Gives you a blowjob and sheds her skin. Well, welcome to the carnival of circus freaks. The ladies and gentlemen, take your seats. The freaks. The freaks. The bearded lady, crap she extracts, produces an elephant out of a snack. Thank you.
vous écoutez toujours Calibre sur Radio Kaléidoscope, la libre antenne de tous les jeudis soirs de 20h à 21h. Appelez-nous au 04 76 09 09 09. Et ce soir, on parle de modifications corporelles choisies.
C'est ça. On a un peu ciblé sur les modifications corporelles choisies, parce que dans le terme modification corporelle, il y en a plein. Ça implique plein de choses et ça implique aussi des modifications corporelles subies, on va dire, ou en tout cas pas forcément aussi volontaires que ce qu'on pourrait le vouloir. Mais du coup, on a plutôt ciblé là-dessus pour ce soir. Pas que c'est plus intéressant que les autres de discuter, mais en tout cas, en effet, les modifications corporelles, ça pourrait parler d'accidents, de comment on peut à un moment donné avoir son corps qui se transforme de manière accidentelle ou avec les aléas de la vie, de la vieillesse, de comment à des moments on peut vivre certaines situations corporelles par des faits, on va dire...
Inattendu
ou même attendu en fait. Enfin, mais en tout cas, ça peut être attendu et pas forcément être considéré comme des souhaité, modifications corporelles. Ouais. Donc voilà, c'est vrai qu'il y a tout un tas de types de modifications corporelles qui peuvent être culturelles aussi, rituelles. Donc ce soir, on ne va pas parler de tout ça. On ne parlera pas de rapport au corps, au handicap, à nos rapports au régime, ou est-ce que quelle pratique liée à l'excision, par exemple, peut être aussi une modification corporelle plutôt culturelle, subie. Tout ça, on va le mettre de côté. Et aussi, on avait envie de cibler sur des modifications corporelles, même dans celles qui sont choisies, on va dire. Il y a beaucoup de modifications corporelles qui existent, qui visent à mettre en conformité le corps vis-à-vis de certaines normes. Et ça aussi, on a décidé de le mettre de côté pour l'instant.
Alors, un petit peu. Hein. C'est pas franc, quoi, parce qu'on va quand même parler de piercing, de tatouages, qui sont quand même assez répandus et qui peuvent même, à certains moments, même souvent, embellir le corps et faire correspondre nos corps à des codes esthétiques qui sont très valorisés, etc. Donc, on ne va pas être complètement en dehors des normes et des codes de beauté, etc. Mais en tout cas, c'est vrai qu'on va aussi... nous, on avait envie de parler des pratiques de modification corporelle qui peuvent aller un petit peu à l'encontre de ce qu'on a l'habitude de voir et à l'encontre de ce qu'on attend de nous. Et ça, c'est aussi intéressant. Voilà.
Et c'est vrai que la limite, elle est plutôt fine dans qu'est-ce qui fait partie du phénomène de mode et puis qu'est-ce qui met en conformité le corps. Enfin, en tout cas, on ne parlera pas, par exemple, d'un plan mammaire. Comme...
Voilà,
par exemple.
Ou du fait de gonfler les lèvres voilà, ce genre de choses. Ouais.
Ou de pratiques liées au régime amincissant qui visent des normes corporelles imposées, en fait.
Voilà. Du coup, on va parler plutôt de, comme on a dit, de tatouages, de piercing, mais aussi de pratiques de suspension, de scarification et de quoi d'autre encore ?
De chirurgie.
Voilà. Des pratiques de chirurgie esthétiques pour le coup, qui
ne
sont pas nécessairement des pratiques de chirurgie qui visent à embellir certaines parties du corps, mais plutôt à transformer carrément le corps pour qu'il ne soit plus complètement reconnaissable comme humain, quoi.
Donc il y a pas mal de pratiques comme ça, on parlera vite fait aussi des implants par exemple, enfin différentes formes qui existent. Et on avait envie de parler aussi des différents imaginaires que ça peut provoquer en fait d'aller dans une démarche comme ça de modification corporelle complète. Et aussi on laissera du temps aussi pour parler du rapport à la douleur que ça peut impliquer en fait. Est-ce que cette douleur elle est recherchée, pas recherchée? Est-ce qu'on en joue? Est-ce qu'on en a peur? Enfin,
On parlera aussi de la valeur sociale que cette douleur elle peut avoir selon les pratiques dont on va parler, aussi du rapport au tabou, à la morale. voilà, au jugement que ça peut provoquer, en fait, ces pratiques de modification corporelle. Voilà, on va faire des petits paquets comme ça, alors sachant que effectivement, de toute façon, on parlera de certaines choses, puis on y reviendra, parce que tout ça est bien sûr très lié, et tout est un peu transversal dans ce qu'on va aborder, mais voilà, en gros, un petit peu de ce qu'on va parler. Nous, c'est ce qu'on a prévu. Après, en fonction de vos appels, tout aussi peut s'adapter, changer. Du coup, on vous invite en tout cas à raconter vos expériences ou à venir poser des questions ou même raconter des coups de gueule par rapport à ça, pourquoi pas. Donc toujours au 04 76 09 09 09. Et là, on enchaîne avec la chorale des robots, We Are The Robots.
1, 2, 3, 4.
Yes, boy, Robotnik. Moi, mes premières idées de tatouage, ça remonte à quand je devais avoir 14-15 ans. Et je me rappelle que du coup, j'avais des idées assez gnangnan en fait de tatouage. Par exemple, je faisais de l'escalade et du coup, je m'étais dit, ah tiens, je me ferais tatouer un Gecko sur la cheville. Comme je pense à peu près 350 grimpeuses. Je sais pas comment ça s'est goupillé, mais au final, je trouve que j'ai de la chance parce que je suis jamais passée à l'acte en fait à ce moment-là. Ce qui fait qu'aujourd'hui, j'ai pas de tatouage en fait d'une période de ma vie qui correspondrait plus du tout à ce que je suis aujourd'hui. Je suis assez contente d'avoir mis super longtemps en fait à sauter le pas. Du coup, quand je dis super longtemps, c'est vraiment super longtemps parce que ça se joue à plus de 10 ans. Du coup, mes premières idées de tatouage, j'avais 14-15 ans et aujourd'hui, je vais avoir 29 ans et mon premier tatouage, je l'ai fait l'été dernier. Et pour moi, ça fait vraiment partie de mon rapport au tatouage, d'avoir mis tout ce temps-là, parce que je crois que j'avais vachement besoin de mûrir, en fait. Ça m'a permis, en fait, d'être super sereine avec le fait de me tatouer, en sachant que, voilà, c'est définitif. Et quand je me suis dessinée, du coup, je me suis arrêtée sur un motif que aujourd'hui j'aime encore beaucoup, alors que je pense que je vais assumer, j'imagine, toute ma vie, quoi.
Je sais pas si ça a été une façon de reprendre du contrôle sur mon corps, je n'en suis pas sûre. Je sais pas si je le contrôle vraiment plus ou moins, ou par rapport à avant, ou... En tout cas, j'ai la sensation qu'à des moments, je le sens et que je choisis pourquoi je le sens. C'est-à-dire que c'est pas parce que je subis un fait extérieur comme la maladie. Je me dis tiens, j'ai un corps. Et ça, c'est déjà pas mal des fois de capter que j'ai un corps. C'est pas juste une chose que je traîne ou qui est pratique pour me déplacer ou pour faire des choses. Aussi, une autre chose par rapport aux cicatrices. En un sens, j'étais contente d'avoir des cicatrices qui correspondaient à des périodes de ma vie parce que ça fait partie de moi et que j'ai pas envie d'oublier et que ce que j'ai été à des moments où ce que j'ai pu vivre, c'est ce qui aussi me fait maintenant. Et du coup, j'ai envie, certains événements marquants de ma vie, de les marquer sur ma peau pour me dire, comme des gens écrivent un journal intime, de me dire ça restera et ça restera sur ma peau. Et pour moi, en tout cas, c'est comme des symboles qui disent tiens, tel moment t'as vécu ça et t'as fait telle rencontre, et c'est vraiment assez important. Et je me dis peut-être si un jour j'ai un Alzheimer, ça peut être un moyen mnémotechnique pour me souvenir des choses.
Moi, jusqu'à 18 ans, j'ai entendu dire ma mère, si tu te fais percer, c'est la porte, machin et tout. Enfin, des trucs super réac. Et du coup, bah, j'étais pas une super rebelle hein, dans la vie, donc j'ai attendu d'avoir 18 ans. En fait, le jour de mes 18 ans, je vais me faire percer le nez. Et alors, ce qui est drôle, c'est qu'en fait, à l'époque, moi, j'avais une approche du piercing où je savais pas que ça se faisait à l'aiguille. Enfin, du coup, je suis pas allée dans un salon, en fait, je suis allée chez la bijoutière du coin qui perçait au pistolet, puisque c'était le moment où c'était gros boom sur les piercings de nez de Pépette, et où du coup, elle faisait ça dans les bijouteries complètement à l'arrache. J'ai fait un piercing au pistolet dans le nez, quoi. Et ça a été mon premier piercing, et du coup, c'est ce que j'appelle ma période piercing de Pépette, quoi. C'est-à-dire, du coup, commencer par des piercings qui sont faciles, en fait, à s'approprier, qui ont une connotation qui n'est pas forcément négative, voire qui est vraiment socialement assez bien acceptée. Ouais, après, je me suis fait percer le nombril, donc deuxième piercing de Pépette. Et ensuite, à 22 ans, je me suis percée sous la lèvre, au centre. Ça reste quand même un piercing qui est simple à assumer, je trouve. Et le dernier que j'ai fait, c'était l'été dernier. Du coup, c'est encore un personnage d'un nez, mais du coup, qui est au milieu, voilà, du nez. Et c'est marrant parce que celui-là, en fait, je crois que c'est celui que je préfère aujourd'hui. Mais en fait, j'ai vraiment remarqué la différence de perception dans le regard des gens par rapport à ce piercing-là. Enfin, j'ai l'impression que celui-là, en fait, il est considéré comme plus agressif, entre gros guillemets. Il ouais, choque plus, marginal, quoi. Ouais.
Et voilà, vous êtes toujours sur Calibre, sur l'émission thématique modification corporelle. Ce qu'on vient d'entendre, c'est des interviews que vous avez peut-être déjà pu entendre, en fait, parce qu'on les a empruntées à la radio Dégenrée, qui avait déjà fait en 2010 une émission sur le sujet. Et juste avant, donc c'était la chorale des robots qui reprenait We Are the Robots. C'est une reprise de Kraftwerk, ce premier groupe à avoir fait de la musique un peu électronique. Là. Du coup, c'était marrant de le reprendre à la voix. Je l'aime beaucoup parce qu'il est chanté là, par une chorale intégralement à la voix et aux doigts, comme ça. Là. C'est des humains qui font une chorale de robots.
Alors nous, dans cette émission, on s'est dit que ce serait quand même intéressant qu'on raconte nous aussi notre expérience ou nos expériences de modification corporelle. Alors toi, Marty, tu veux nous raconter un peu ?
Et oui, alors moi, par exemple, je pratique surtout le piercing. Je pense que j'ai plein d'idées de tatouages qui me sont venues en tête depuis quelques temps, mais j'ai jamais réussi à me dire, allez, ça y est, j'imprime un tatouage, je sais pas, il y a un truc de peur là qui me fait, bon, garder un truc à vie, c'est pas le truc de garder un truc à vie, mais c'est de pas arriver à me décider sur un motif que j'aurais envie d'assumer toute ma vie. Et à chaque fois, je me dis, bon, au bout de 2 mois, je change d'avis, et du coup, je le fais jamais. Peut-être un jour, ça me prendra, mais on l'a un peu entendu aussi, là, une des personnes raconter ce rapport-là au tatouage, d'avoir attendu longtemps, et je me dis, bon, voilà, peut-être un jour, ces projets de tatouage, ça viendra. Moi, j'ai surtout une pratique un peu du piercing. J'ai fait mes premiers piercings que j'ai pu faire à l'oreille, par exemple, c'est des donc lobe et cartilage. C'est des piercings que j'ai fait en bijouterie.
Mais alors, justement, c'est marrant ce qu'elle raconte cette copine là sur les premiers piercings qu'elle a fait aussi. Moi, c'est pareil. En fait, j'ai l'impression qu'à une certaine époque, effectivement, derrière le phénomène de mode, il y avait évidemment la non-information. Mmh. Et on est beaucoup à être passé par le pistolet.
Et le pistolet, alors, non seulement le fait d'avoir des effets dramatiques sur le cartilage, donc là je pense au piercing que j'ai sur le cartilage de l'oreille qui a mis des mois et des mois à cicatriser pendant des mois, je n'arrivais pas à dormir sur cette oreille-là et je devais dormir d'un côté, mais vu que je bouge beaucoup la nuit, c'était assez contraignant pendant des mois de ne pas arriver à trouver le sommeil et d'être réveillé par la douleur, nanana, bon. Et en plus, au niveau des conditions d'hygiène, normes d'hygiène, moi j'ai aussi souvenir que ça se faisait en plein milieu de l'espace d'accueil, comme ça, et clac, t'as un bijou et tu repars tel quel, quoi. Un petit bout de désinfectant, et quand on... Peut-être ça paraît plus clean une bijouterie qu'un salon de tatouage, mais en vrai, quand on voit toutes les précautions qui sont mises aussi en termes de stérilisation du matériel et tout ça dans les salons de tatouage, bon, c'est quand même autre chose qu'une bijouterie.
Oui.
Et plus récemment, du coup, parce que un piercing qui est plus récent, je me suis fait percer un téton. Le droit. Et là, pour le coup... là, pour le coup, je l'ai fait à l'aiguille. Je l'ai pas fait à la bijouterie. Mais je l'ai pas fait non plus en salon de piercing, tatouage. Je l'ai fait... c'est une amie qui me l'a fait. Du coup, on a préparé tout le matériel, stérilisé tout le matériel. Et c'est nous qui avons un petit peu organisé le truc. Donc voilà, j'étais dans le salon chez ma pote et voilà, j'étais agrippée à un fauteuil.
Tu dis agrippée, pourquoi agrippée ?
Parce que je me disais que ma douleur, j'allais la mettre dans les accoudoirs du fauteuil au moment du piercing. Et ça s'est pas du tout passé comme ça. Ma douleur, je l'ai expulsée par la voix, j'ai crié. Voilà.
J'ai eu mal alors.
Oui, j'ai eu mal. Mais c'est marrant ce truc. Bon, on reparlera du rapport à la douleur, mais ce rapport à la douleur là, il est quand même. Enfin, aujourd'hui, j'ai plus du tout mal et j'ai un espèce de souvenir comme ça de cette douleur qui vient donner aujourd'hui de la valeur à ce piercing. De je suis contente de l'avoir. Il y a un côté esthétique et un côté je suis fière d'être passée par ce moment-là de douleur. Et je pense que ça va avec la fierté d'avoir ce marquage-là, de dire, ah bah voilà, oui, j'en ai chié, mais maintenant je suis fière d'être passée par cette étape-là de douleur. Mmh. Et voilà. Je voulais revenir, parce que j'ai parlé des conditions d'hygiène, mmh. C'est vrai que ce truc de percer le corps, bah oui, ça crée une plaie, donc qui reste le temps de la cicatrisation, et donc une porte d'entrée aussi d'infection, et tout ça. Du coup, c'est en effet, des fois on parle de réduction des risques dans la sexualité, mais à travers la pratique de tout ce qu'on va vous raconter, là, piercing, tatouage, c'est bien d'utiliser des gants, de mettre des désinfectants, de décontaminer et de stériliser le matériel qui est utilisé. Voilà.
Oui, tout à fait. Alors, du coup...
Et toi, ouais. Alors c'est quoi ton rapport aux modifications corporelles?
Oui, alors, bon, bah, moi, en fait, je suis comme toi, je suis pas tatouée. J'ai jamais passé ce cap parce que... En ayant réfléchi un peu plus en préparant cette émission, j'ai enfin admis que si j'avais jamais fait les tatouages qui me sont passés par la tête à des moments, c'est parce que j'assume pas le côté définitif du tatouage et que ça me fait un peu peur de me dire j'ai pas les moyens de pouvoir changer ça si je veux un moment dans ma vie. Mmh. Alors, ce serait intéressant hein, d'écouter ma vie.
Mais on va y revenir. En fait... hein. Moi, je vais te questionner sur ce rapport à ta vie.
Tu vas me piéger. Bon, en tout cas, on a un appel. Du coup, on va accueillir Louise au téléphone. Allô, allô, Louise, tu nous entends? Allô, Louise? Allô, Louise, allô, est-ce que tu nous entends? On n'entend rien du tout. Les copines techniciennes, on n'entend rien.
Bon, pour présenter Louise quand même, parce qu'on ne va pas vous cacher que c'est un appel qui a été programmé.
Oui, on nous a dit
Une interview en direct donc, de notre part. On va lui poser plein de questions. Allô Louise?
Ah oui, allô?
Ah, ça y est, on t'entend.
Bonjour.
Salut, alors, donc on était en train d'expliquer là à l'antenne qu'on avait discuté avec toi et qu'on avait dit qu'on voulait faire une petite interview en direct. Alors, c'est cool que tu nous appelles. On a plein de questions.
Ouais. Nous, on a commencé l'émission un peu là, enfin, c'est les dernières phrases qu'on s'est dites. On parlait de nos différents rapports aux modifications corporelles et avec Emma, on disait qu'on
nos expériences
plutôt...
aussi, quoi.
Oui, et on était plutôt sur des pratiques de piercing. Mais toi, est-ce que tu veux nous raconter un peu ton rapport aux modifications corporelles?
Mon rapport aux modifications corporelles, bah ouais, tout à fait.
Allez, on t'écoute.
Enfin oui, ou tes pratiques, voilà.
Bah alors moi je fais du tatouage dans la vie aussi, du coup, j'ai effectué des modifications sur moi-même, mais j'ai aussi effectué des modifications sur le corps des autres personnes. Du coup, je peux vous parler de l'un ou de l'autre. Je ne sais pas par quel bout vous voulez que je commence.
Bah, moi, je trouve que c'est intéressant d'avoir un peu des échos, parce que nous, là, on a différents supports de témoignages, mais on n'a pas de témoignages de personnes qui pratiquent sur les autres personnes. Du coup, je trouve que c'est intéressant d'avoir cet écho-là et que tu nous racontes un peu... soit des moments forts qui ont pu avoir lieu dans ta vie de pratique de tatouage sur d'autres personnes. Qu'est-ce qui t'a marqué? Qu'est-ce qui te fait plaisir là-dedans ou pas? Qu'est-ce qui fait que t'en es arrivé aussi à pratiquer ça? Voilà.
Alors, peut-être je peux commencer par le début et vous parler de comment j'en suis venue à faire ça, parce qu'en fait c'est un peu lié aussi au fait que moi je m'intéressais au tatouage sur moi d'abord. Mm-hmm. Bah du coup moi j'ai commencé à me faire percer vers mes 18 ans, enfin juste après avoir été majeure, puis assez vite je me suis penchée sur le tatouage, et assez vite en fait ça m'a semblé moi ça m'a fait un bien fou de me faire tatouer dans un truc de libération, de réappropriation de mon corps, tout ça, et je me suis dit, ah mais peut-être je pourrais faire ça en fait, je pourrais être tatoueuse. Et du coup j'ai commencé à apprendre. Et après par contre sur les autres personnes, ça a été au début ça a été vraiment pas évident, parce que justement c'est pas un... Enfin moi je voyais plus le côté je vais dessiner sur le corps des gens, mais je voyais pas aussi tout ce qui est hyper fort dans la pratique du tatouage, que ce soit au niveau de l'effort physique que ça demande ou ou de la douleur que ça suscite, ou même du poids que les gens mettent dans un tatouage.
Ouais.
Et du coup, au début, j'ai eu un espèce de vraiment truc assez... à partir du moment où j'ai appris et où il a fallu passer le cap de « Ok, je vais tatouer quelqu'un d'autre, un autre corps que le mien sur lequel je m'entraînais », ça a été pas évident parce que c'est ça, le tatouage, c'est quand même un truc qui reste toute la vie sur sa peau, enfin, à moins de l'enlever au laser, mais ça, ça coûte super cher. Et... Et c'est pas une pratique très courante. Et surtout, c'est souvent symboliquement assez fort, quoi. Et en plus, ça fait mal. Et en plus, il ne faut pas se rater, quoi.
Ouais.
Du coup, j'ai l'impression que ça crée... Enfin, que c'est un lien vraiment particulier, le lien entre tatoueur et tatoué.
Et par exemple, dans ce que quand tu parles de... Que ça n'a pas été simple, les différentes symboliques fortes des gens ou les différents rapports à la douleur, toi, comment tu gères ça là? Comment tu gères la douleur des autres? Qu'est-ce que tu mets en place ou pas? Ou dans, je sais pas, comment ça se passe quand tu tatoues quelqu'un et que tu te rends compte de sa douleur? Ou c'est quoi les différents rapports à la douleur des personnes que tu as pu, je sais pas, avoir à gérer, quoi?
Ça, c'est vraiment hyper variable d'une personne à l'autre et d'un endroit à un autre. Il y a des endroits qui sont plus sensibles que d'autres.
Ouais.
Mais c'est vrai que des fois ça a été c'est vraiment intense pour la personne qui se fait tatouer, et moi ce que je fais, c'est que je dis aux gens que vraiment s'ils ont besoin de faire une pause, bon, j'essaie de les prévenir déjà que le tatouage ça fait mal,
surtout
s'ils n'ont pas de tatouage, et après vraiment c'est un truc de ça sert à rien d'essayer de prouver quoi que ce soit, qu'on a un warrior ou quoi, si jamais on souffre trop, faut faire une pause, boire un coup, souffler un peu. Du coup j'essaie d'être dans une approche pas mal comme ça.
Ouais.
Et ouais, vraiment aussi tout le truc de pas mettre la pression, quoi, de si jamais c'est trop, ben tant pis, on recommence 15 jours après et on finit le tatouage une autre fois.
Ah oui, c'est ça, c'est possible de faire en plusieurs fois et de dire bon, on fait un petit bout aujourd'hui et puis plus tard.
Ouais.
Parce qu'en général c'est long, en fait, même pour un petit tatouage, ça prend minimum combien de temps, en fait, un tatouage?
Ça dépend à fond du dessin,
ouais,
et de la taille, de la quantité d'encre, si c'est que du trait, ou s'il y a du remplissage, mais je sais pas, c'est vraiment hyper variable. Si on veut juste un triskel, mettons, pour une idée un peu basique et standard, en bas du dos, ça prend, je sais pas, même pas une demi-heure, mais...
Ah oui.
En très simple, sans remplissage, sans ombrage, sans rien.
D'accord. Et du coup, toi, dans ces... Enfin, il y a quelque chose que tu as dit qui m'a interpellée. Mais alors, du coup, c'est pas dans ta pratique de tatoueuse, mais plutôt de tatouer. Tu as dit que tu avais effacé un tatouage au laser.
Ah non, pas du tout.
Ah non, t'as pas fait ça, toi?
Non, moi je l'ai pas fait, j'ai dit que c'était définitif à moins de...
Ah oui, à moins de faire ce truc de l'effacer. D'accord.
Parce que je crois que ça peut s'effacer, ça peut s'effacer, ou alors ça peut aussi se recouvrir, je crois, si jamais on fait un tatouage. Parce que Emma et moi, on était en train de raconter aussi qu'on pouvait avoir des envies ou des projets de tatouage qu'on n'a jamais réalisé, parce que ce rapport à décider d'un motif à faire à vie, c'était hyper dur dans la symbolique. Mais du coup, il y a quand même des techniques pour se les faire enlever, ou alors voir les recouvrir. J'avais lu ça quelque part, que c'était possible aussi, un petit tatouage d'en faire autre chose en le modifiant ou en rajoutant par-dessus quelque chose. Toi, ça t'est déjà arrivé, par exemple, de...
Oui, c'est une pratique assez courante dans le tatouage, de recouvrir des anciens tatouages, ça s'appelle des cover-ups.
Ouais.
Et en fait, c'est assez courant, moi, ça m'est arrivé plusieurs fois, et j'aime bien faire ça, parce que ça fait qu'on travaille à partir d'un tatouage qui est déjà là, et on le transforme en autre chose, mais en même temps, il est toujours là, et... c'est assez marrant.
Mais alors, du coup, dans les codes et les règles entre tatoueur et tatoueuse, c'est pas vécu comme un affront. C'est pas comme les graphes, en fait. Parce que, par exemple, recouvrir un graphe, c'est vraiment mal vu, quoi. C'est pas bien, c'est mal de faire ça. Enfin, c'est un affront. Là, pas.
Souvent, moi, les tatouages que j'ai recouverts, c'était souvent des tatouages... Non, c'était des tatouages faits à l'aiguille par les gens eux-mêmes ou par à eux. C'était plus des tatouages pas fabuleux, mais non, il n'y a pas le même truc que dans le milieu du graphe. En tout cas, pas avec les tatouages que j'ai pu recouvrir.
Oui, il n'y a pas ce côté recouvrir l'œuvre de quelqu'un d'autre. C'est plutôt rattraper quelque chose, quoi.
Ouais. Mmh. Oui, puis moi, j'ai jamais recouvert de tatouage de personne célèbre. Peut-être si je recouvrais un tatouage de... de Navette, par exemple, peut-être qu'il le prendrait mal.
Mais c'est vrai qu'après, je sais pas, du coup, ça m'évoque un truc, là, parce que quand même, un graffeur, il peint un mur, et du coup, ben oui, le mur, après, il appartient à personne, enfin, dans le milieu du graphe, alors que le corps sur lequel tu tatoues, il appartient quand même principalement à la personne qui vit dans ce corps-là. Du coup, c'est à elle de décider, plus qu'au au tatoueur, de c'est à qui ce morceau de dessin sur la peau. Enfin, je sais pas, du coup, j'ai l'impression quand même que le dessin, il appartient, enfin, en tout cas, c'est l'imaginaire que j'ai autour du tatouage. Hein, le dessin, il appartient quelque part plus à la personne qui le porte qu'à la personne qui le fait, même si j'imagine que quand même, c'est les imaginaires des tatoueurs doivent avoir, enfin, je sais pas, du coup, quand tu parlais du dessin, il y a un lien entre savoir dessiner et peut-être avoir une touche graphique personnelle et ce que tu vas faire et en tatouage, non?
Ouais, puis c'est un peu... Bah, en plus, tout le challenge du tatouage, c'est aussi de faire un dessin qui va sur un corps qui est quand même pas une surface plane comme un mur ou une feuille de papier ou une toile. Ou... Et ouais, du coup, c'est un peu... la difficulté dans le tatouage, c'est de marier les deux, les deux aspects.
Et toi, Louise, est-ce qu'il y a des tatouages que tu refuses de faire?
Bah ça m'est jamais. Bah je refuse parfois pour des raisons techniques qui est que je suis pas encore vraiment pro. Enfin je suis encore dans une phase d'apprentissage selon moi. Et du coup des fois il y a des projets qui me semblent trop complexes ou trop compliqués où je me dis bon je veux pas faire un tatouage raté à cette personne. Du coup je vais.
Ouais ouais. Donc plus sur le côté compétence encore quoi.
Ouais.
D'accord.
J'ai toujours dit que sur des demandes qui rentraient trop en contradiction avec mes convictions personnelles ou des choses comme ça, je pense que je refuserais quoi.
Oui, si par exemple je te... Mais alors, d'accord. Par exemple, je peux imaginer que si je te demandais de me tatouer une croix gammée, tu me dirais peut-être non.
Oui, probablement.
Très probable. Mais est-ce que si je te demandais de me faire un dauphin...
Bah, j'ai moins d'objections aux dauphins.
Non, je pense à ça parce que j'ai un ami qui m'a raconté ça, que... il avait vu ou qu'il connaissait une tatoueuse, je ne me rappelle plus bien... qui avait posé une plaque sur sa devanture qui disait ni dauphin ni papillon, un truc comme ça sur ça. Parce qu'elle voulait, elle en avait marre en fait, elle voulait plus faire ses tatouages. Et je trouvais ça, bah, je trouvais ça marrant. Bon après voilà quoi, j'ai pas de jugement a priori ou de, enfin voilà, si quelqu'un veut se faire tatouer un dauphin, pourquoi pas. Mais c'est vrai que en fait en tout cas ça renvoie plus à la question du rapport à la mode ou à des phénomènes de code esthétique comme ça, et en fait je trouvais comme anecdote c'était intéressant parce que ça montre quand même qu'il y a des choix qu'on peut faire là-dedans, en fait, et qu'on peut même assumer et revendiquer dans comment on veut pratiquer le tatouage.
Ouais, ouais, c'est sûr. Après, c'est aussi lié à des trucs économiques ou j'ai l'impression que pouvoir refuser de faire un certain style de dessin, il faut déjà avoir une certaine notoriété. Après, moi, je me vois aussi plus comme... moins comme une artiste que comme peut-être une artisante ou comme quelque chose que si quelqu'un tient à tout prix à avoir un dauphin et que ça a une symbolique forte pour cette personne et que moi ça me saoule de faire des dauphins ou quoi, je peux essayer de quand même lui faire un dauphin mais en travaillant de ma façon, enfin faire mon style de dauphin ou personnaliser plus le dessin.
Ouais. D'accord.
Et moi, ça me faisait penser aussi à ta question là de est-ce que tu refuserais. Mais aussi, on s'est demandé avec Emma s'il y avait des limites légales aux modifications corporelles, aux tatouages. On se demandait par exemple sur la question du tatouage du visage, par exemple. Enfin, on a cherché un peu, on n'a trouvé aucune réglementation. Toi, peut-être que t'en sais plus sur est-ce qu'il y a des lois qui ou des, je sais pas, des.
Bah, a priori, en France, en tout cas, il y a un espèce de grand flou juridique autour du tatouage. Et il n'y a aucune loi qui interdit le tatouage sur les visages ou sur les mains. Ou... Ouais. C'est quand même plutôt chouette, quoi.
Ouais, ça peut arriver dans d'autres pays, par exemple.
Et par exemple, je sais que... Alors, je sais pas si c'est vrai, mais en tout cas, j'ai entendu dire qu'aux États-Unis, c'est si on est tatoué sur les mains ou sur le cou, au passage des frontières, ils le notent parce que ça peut être un signe d'appartenance à des gangs ou à des choses comme ça. Mmh. Du coup, c'est quand même... Ça rajoute un truc qui peut être embêtant pour certaines personnes. D'accord. Quand on veut voyager aux États-Unis. Mais je sais que pendant tout un moment, au niveau des tatouages faciaux, il y avait moyen d'obtenir l'aide sociale au Canada ou au Québec en tout cas.
Ah bon?
En ayant des tatouages sur le visage, ça te rendait plus ou moins inemployable. Enfin,
D'accord. Et alors, est-ce que toi, tu as déjà aussi pratiqué des tatouages dans une démarche de transformation totale du corps? Parce que, en fait, nous, en préparant cette émission là avec Marty, on a été voir aussi du côté des modifications corporelles un peu complètes, si on peut dire. Ouais. Et du coup, on a été voir des témoignages et des documentaires vidéo avec des personnes qui avaient développé des imaginaires complètement un peu fous comme ça, de vouloir se transformer en tigre ou d'être un homme lézard.
En associant plusieurs techniques de modification corporelle.
Voilà, c'est ça. De la chirurgie, du tatouage, du piercing, des implants. Enfin, vraiment pour donner... par exemple, ce gars-là qui veut être un tigre, enfin en tout cas qui veut apparaître comme un tigre, c'est impressionnant. Il ressemble vraiment à un tigre.
Le tatouage intégral et puis des implants transdermiques. Peut-être que je raconterai ce que c'est. Enfin, du coup, c'est des espèces de piercings.
Oui, qui font gonfler les pommettes. Il s'est taillé la langue en deux. Non, ça, c'est l'homme serpent, ça.
Oui, après, il y a différents imaginaires. Il y a plein d'imaginaires.
Oui, lui, mais il s'est taillé les dents, l'homme tigre.
Oui. Voilà.
Enfin bon, voilà, moi, j'avais envie de savoir si toi, t'avais déjà participé à transformer un corps dans ce sens-là.
C'est une question compliquée, ça. non, jamais dans un sens aussi, mais parce que c'est quand même assez rare les personnes qui sont dans une démarche de modification corporelle à ce point-là. Au point de changer, enfin de se plonger carrément dans un autre univers et dans une autre identité, mais j'ai l'impression que... La démarche du tatouage, c'est un peu ça dans tous les cas. Enfin, y a quand même un truc de modification d'une partie de sa personne. Mais j'ai jamais participé à la création d'un homme chat.
Ouais, c'est incroyable.
Je refuserais pas, je pense que je trouverais ça intéressant comme démarche et chouette aussi.
Ouais. Ouais. Ben, on va prendre un petit temps après pour en discuter, mais peut-être que tu as d'autres questions, Emma, sinon.
Ben moi, non, je pense avoir fait le tour un peu de ma curiosité.
Et toi, Louise, tu aurais envie de nous raconter une anecdote ou quelque chose qu'on n'aurait pas pensé à te poser comme question?
Comme ça, je ne sais pas, il n'y a rien qui me vient tout de suite comme ça, mais je vais y réfléchir pendant la musique, pendant...
D'accord, en tout cas Louise, merci de ton appel et puis sans doute à bientôt.
Oui, sans doute.
Ciao. Et nous on enchaîne avec Human Fly Dragibus.
voilà, toujours à l'écoute de Calibre. Donc c'était une reprise des Cramps qu'on vient d'entendre. Reprise par Dragibus, un groupe de chansons pour enfants. du coup, on a, sur la fin de cette interview en direct, on a évoqué différents imaginaires assez complets en fait, de modifications corporelles, et on voulait refaire un petit, je sais pas, de listing de pratiques qu'on avait vues, notamment on a vu un film ensemble avec Emma qui s'appelle Modify, qui a raconté pas mal de choses. C'est dans ce film qu'on a rencontré, par exemple, l'homme tigre, un homme reptile, et puis du coup qui racontait ses pratiques et tous les imaginaires associés en fait à ces pratiques-là de modification corporelle complète.
Ce qui était intéressant de voir, par exemple aussi, c'est que a priori, si tu as l'argent, tu peux faire absolument tout ce que tu veux en fait. En termes de chirurgie, de piercing, de tatouage, c'est des gens qui sont allés très très loin en fait dans ces pratiques-là et voilà, personne ne leur a dit non.
Oui, c'est ça. Il y avait une interview d'un dentiste par exemple qui disait ben moi tant qu'on me paye, je fais tout ce qu'on me demande en fait. Je taille les dents en pointe, enfin et du coup pour la chirurgie c'est un petit peu le même modèle. Moi là du coup j'ai relu un petit des choses sur aussi une artiste contemporaine là, qui s'appelle Orlan, qui sa démarche artistique c'est de pratiquer la chirurgie. Donc là elle est pas du tout dans le tatouage ou le piercing, mais elle utilise la chirurgie esthétique et les implants, donc en silicone qu'on a abordé un petit peu, pour modifier complètement la structure de son visage. Et pas sur des modèles esthétiques existants. Du coup,
non,
elle
par exemple, elle s'est
normes,
fait des cornes.
Elle s'est fait voilà des bosses sur les tempes. Elle s'est fait gonfler les pommettes. Et vraiment dans des imaginaires, elle a cherché à savoir jusqu'à quelle taille peut aller son nez, par exemple. Alors que bon, plutôt quand on la plupart des personnes qui se font refaire le nez, par exemple, vont chercher à ce que ce soit petit, mignon, surtout dans des normes féminines. Et du coup, c'est une artiste qui est féministe et qui revendique aussi ce choix-là d'aller à l'encontre des normes corporelles du féminin qui lui sont imposées, en allant vers des imaginaires qui sont plus liés à de la recherche qu'à des codes contraignant quoi. Voilà. Et du coup, voilà. Bon, après, elle fait filmer la séance d'opération. Les chirurgiens sont habillés par des grands couturiers et c'est retransmis en direct dans des musées. Bon, voilà, c'est une pratique artistique qui est exposée et montrée comme ça. Donc, c'est très démonstratif. Mais du coup, quand on a croisé ces différents personnages là et ces différentes personnes qui pratiquaient les modifications corporelles voilà sur ces imaginaires d'animaux ou de robots ou de on est dans des démarches un peu similaires là de concevoir le corps complètement différemment. On n'est plus un être humain, on n'est plus ni un homme ni une femme, ni on est ce qu'on veut en fait, et on peut être ce qu'on veut, la technologie le permet. Voilà.
Et on se disait c'est assez fou parce que justement le corps s'adapte hyper bien. En fait, c'est vraiment possible d'aller très très loin dans dans ces pratiques chirurgicales, de soit sectionner des parties du corps, soit les transformer complètement. Et en fait, c'est vraiment possible de faire quasiment tout ce qu'on veut. Et bon, alors après, c'est une démarche, quoi. Faut vouloir faire beaucoup d'anesthésie générale, aussi, accepter un certain rapport à la douleur, parce que c'est pas rien quand même ce genre d'opération. Mais en tout cas, nous, on trouvait intéressant ce que ça peut générer en termes de rapport à l'imaginaire et comment on peut aller assez loin en fait dans s'autoriser à être autre chose que ce qu'on attend de nous et carrément être des personnages ou des personnages non identifiés. Enfin, voilà, nous, on trouvait que c'était intéressant aussi d'évoquer ça. Bon, qui est pas non plus s'étendre là-dessus parce que c'est pas une pratique qui est très 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 courante, mais en tout cas c'est intéressant de l'évoquer quoi.
Bah après c'est vrai que être un tigre dans la vie de tous les jours, dans la rue, chercher du travail, je pense que oui, les personnes qui sont dans des démarches comme ça, qui vont venir bouleverser l'ordre établi dans ce que c'est qu'un corps qu'on croise tous les jours quoi. Bah oui, évidemment ça pose des questions de bah ouais, comment cette personne-là elle va assumer ça au quotidien. Est-ce qu'elle fait partie d'un réseau qui, de toute manière, est intégré, qui est composé de personnes qui sont sur ces pratiques? Est-ce que c'est des gens qui sont artistes, qui sont tatoueurs et qui font que ça, et qui sont dans un univers comme ça? Et du coup, parce que c'est vrai que du coup, ça pose la question du regard des autres, en fait, et de ce qui est communément admis. Après, nous, on raconte aussi des pratiques qui nous ont marquées. Moi, je voulais citer aussi là, la revue... Quasimodo, qui a fait un numéro spécial, son numéro 7, autour des modifications corporelles. Et dans les imaginaires complets, il y a aussi des imaginaires liés au manga, en fait, aussi de se transformer le visage et le corps en fonction de ce qu'on peut voir dans de la bande dessinée ou dans... Du coup, on modifie que quelques petites choses. C'est pas des transformations qui vont clairement choquer, mais qui vont venir créer du décalage par rapport à ce que... Ou qui va vraiment venir coller à des imaginaires de science-fiction.
Alors, dans cette revue et dans ce documentaire qu'on a vu aussi, là, Modify, il y avait aussi d'autres pratiques, telles que la pratique de suspension ou des choses comme ça. D'ailleurs, il va falloir qu'on donne la réponse à notre quiz bientôt, quand même, à la fin de l'émission.
Oui.
qu'on peut rappeler, d'ailleurs, c'est la question à laquelle il faut répondre, c'est qu'est-ce que le branding, qui est une pratique de modification corporelle. En tout cas, il y a aussi ces pratiques-là.
Qui sont dans des rapports ludiques. Le branding, on décrira ce que c'est après, mais tu parlais de la suspension, par exemple.
Là, c'est des modifications ponctuelles. Ce n'est pas des modifications définitives, a priori.
Disons que le principe de la suspension, c'est d'être accroché par la peau, par des crochets. Donc, c'est vrai que c'est une pratique qui est liée au piercing, parce qu'on vient utiliser du métal dans la peau. Mais du coup, ça rentre dans les pratiques ludiques. Le but, ce n'est pas d'avoir un bijou à porter tant de temps. Le but, c'est de faire l'expérience, d'être suspendu par la chair pendant un temps donné. Et puis, du coup, c'est une pratique ludique autour de... autour d'être transpercé, supporté par son propre poids et par une blessure. Et du coup, c'est aussi un jeu autour de la douleur. Là, c'est faire l'expérience de cette douleur-là et de
cette douleur ou de ce plaisir, parce que dans pas mal d'interviews, il y a des personnes, et notamment je pense à des femmes qui racontent qu'elles sont... Enfin, ça leur procure un état de bien-être qui est assez particulier pendant et après la pratique de suspension. Et ça, je trouvais que c'était vraiment intéressant à noter, parce que en fait, c'est toujours pareil dans ces pratiques-là. Il y a vraiment un panel assez grand, en fait, de ce qui peut être possible. Et en fait, les personnes qui sont dans ce genre de pratique, elles peuvent être à la fois, comme tu disais, artistes, dans des démarches un peu de show, de performance, etc. Mais il y a aussi des personnes qui pratiquent ça un peu à la maison, comme tu racontais ton expérience de piercing. On a entre les... Enfin, voilà, il y a une échelle de pratique et un panel très grand entre le DIY à la maison et le grand show de performance. Avec une entrée payante et c'est vrai que moi par exemple personnellement ce qui va un peu attirer mon regard c'est plus les pratiques dites privées quoi, en tout cas celles qui sont pas vraiment dans des démarches de show ou de performance mais plus des expériences individuelles de recherche autour du corps quoi, et de qu'est-ce qu'on peut faire avec son corps et qu'est-ce que ça procure comme sensation, comme expérience. Parce que bon, le côté spectacle peut être intéressant, mais bon, ça génère quand même pas mal de fric, quoi. C'est autre chose, quoi.
Moi, j'avais déjà vu un spectacle de fakir, par exemple, en prix libre. dans un squat. Enfin, c'est pas forcément très très cher, les pratiques de modification corporelle, oui, même
bah
public
là,
et dans
c'est
le
pareil,
show.
C'est pareil, il y a un panel de choses qui existent qui est assez large.
Mais c'est vrai que sur ce rapport à la douleur et à, enfin, nous on avait aussi, on s'est beaucoup inspiré, on a un peu feuilleté un livret qu'on n'a pas encore cité, mais qui raconte plein d'expériences, notamment autour du tatouage et les questions qui sont. Alors le livret s'appelle Les robots aussi, c'est l'édition numéro 1, spécial tatouage. Alors pour le trouver, vous n'avez plus que le choix de tomber dessus par hasard chez quelqu'un. Il y a 300 exemplaires qui circulent seulement. C'est avec une pochette sérigraphiée et des photos et une émission de radio. Des extraits qu'on a entendus un petit peu aujourd'hui. Et dedans, les questions qui sont posées aux personnes, c'est quelle symbolique du tatouage, à quel endroit, et aussi c'est quoi le rapport à la douleur. Et on a vu dans les différents rapports à la douleur, il y avait tout un panel de réponses qui disaient entre les personnes qui, si elles pouvaient se faire anesthésier au moment crucial, elles le feraient, et jusqu'aux personnes qui racontent comment l'expérience du tatouage les a amenées à avoir envie de jouer avec le rapport plaisir-douleur et à rentrer dans des pratiques du BDSM par de la suspension, qui racontent le rapport aux endorphines aussi, à la douleur, comment à un moment donné l'endorphine qui vient gérer la douleur dans son corps, ça shoot un peu, et comment ça, c'est un rapport au corps qui est un petit peu transformé à ce moment-là dans les sensations.
Oui, et puis que souvent, douleur et plaisir sont souvent mêlés. Enfin voilà, c'est pareil, là, ça peut être assez compliqué à définir, et les frontières ne sont pas si floues. Justement,
si.
Les frontières sont pas si étanches. En tout cas, tout ça est bien mêlé. Mm-hmm. Et c'est ça qui est intéressant aussi à voir. Nous, alors forcément, on aurait encore plein de choses à dire, mais il est déjà 20h59, alors on va devoir rendre l'antenne. Mais en tout cas, nous, on se disait que ce serait vraiment intéressant aussi d'avoir plus le temps de discuter. Alors si vous voulez nous appeler une autre fois pour discuter de ça avec nous, ce serait super. Mais en tout cas, on avait fait le tour un peu des douleurs qui sont socialement valorisées ou non. Et on s'est rendu compte aussi que dans les pratiques de modification corporelle, il y a beaucoup ça qui rentre en ligne de compte. Comment on peut considérer que c'est complètement débile qu'une personne s'automutile pour faire je ne sais quoi, par exemple des scarifications ou d'autres pratiques comme ça qui peuvent laisser non seulement un marquage sur la peau définitif, mais en plus qui sont des pratiques très douloureuses. Y a ce genre de pratiques peuvent vite être jugées comme absurdes, comme des violences qu'on s'inflige de manière inutile, et il y a un jugement quand même assez négatif autour de ça, alors que d'autres douleurs qui peuvent être largement plus fortes, extrêmes, si on peut dire, comme par exemple l'accouchement, hyper valorisées, et on va trouver que c'est légitime, normal de s'infliger ça parce que c'est beau et qu'il y a une finalité qui est très utile, très belle. Et en fait, finalement, si on met en parallèle toutes ces pratiques-là, pourquoi il y aurait des pratiques qui seraient plus absurdes que d'autres, en fait, dans ce qu'on peut s'infliger comme douleur à des moments, en fait, choisis, de manière choisie, voilà.
Ouais. Et du coup, tu parlais des douleurs de l'accouchement, mais là, j'ai plein d'idées aussi on nous dit de ne pas faire tout un plat quand on va se faire faire une prise de sang, alors que c'est la même douleur qu'un piercing, ou le même... on va valoriser les régimes, l'épilation. Il faut souffrir pour être belle. Enfin, voilà. Mm. Oui, justement. je souffre pour avoir un corps choisi. Et voilà, c'est aussi un rapport au choix. On va valoriser certaines pratiques qui visent à rétrécir l'estomac, qui sont quand même des pratiques extrêmes, on peut dire, pour atteindre la minceur, qui est une norme sociale clairement intégrée, et on va venir se dire « Ah mais c'est horrible, ta scarification, là, comment tu peux choisir ça ?»
Voilà, bon, donc voilà. Ça, forcément, là, on vient de dire ça très très vite en 2 minutes, mais ça nous a pas mal questionné, en fait, tout ça, et on aimerait bien, bah, peut-être on n'aura qu'à faire une deuxième thématique.
Ah oui, on a encore plein de trucs à dire là-dessus.
On avait un mini agenda quand même à annoncer, ouais. Et puis après, on rend vraiment l'antenne pour de vrai. Mmh.
Peut-être que on pourrait répondre au quiz.
Ah oui, le quiz, mais oui. Alors, qu'est-ce que le branding ?
Qu'est-ce que le branding ? C'est moi qui réponds ?
Bah oui.
Bah, le branding, c'est une brûlure. Donc, c'est un marquage qui vise une cicatrice. Et le branding, c'est... enfin, plus que la brûlure, c'est le marquage au fer rouge. Du coup, c'est des motifs qui sont... On va utiliser telle ou telle forme de métal pour choisir un motif. On va le chauffer. Et venir brûler la peau avec ce motif-là. Donc ça va laisser un marquage brûlé sur la peau. Du coup, au rendu, c'est assez proche de la scarification, mais avec l'aspect brûlé plus que cicatrisé.
Voilà.
Voilà.
Donc vous n'aurez pas gagné le cadeau associé à la réponse de ce quiz.
C'est bien dommage.
Voilà.
Je ne dis même pas ce que c'était.
Et donc le mini-agenda.
Mini-agenda, alors deux choses. Lundi prochain, à la BAF, donc Deux Chemins des Alpins, il y a l'écoute collective de l'émission Dégenrée. Et cette semaine, ce sera autour des violences conjugales entre lesbiennes.
Ok, et le deuxième événement que tu voulais annoncer ?
Et deuxième événement, c'est samedi prochain, le 18, donc à 19h. Également à la BAF, il y a une projection transpédéguine d'un film qui s'appelle The Celluloid Closet. Et c'est un film qui parle de l'histoire du cinéma et de tout le rapport à la censure, en fait, des imaginaires cinématographiques gays et lesbiens. Et de comment les réalisateurs faisaient quand même trouver des stratégies pour montrer des scènes un peu cryptées, mais qui mettaient en situation ces imaginaires-là. Et voilà. Et ce
alors,
sera...
c'est pas samedi qui vient là, c'est samedi de la semaine
d'après.
Prochaine.
Voilà. Et ce sera ouvert à tous et à toutes.
Voilà. Alors, cette fois, on rend l'antenne pour de vrai et on vous dit à jeudi prochain. Ciao, ciao.
Salut.
Corps,
amour, sexualité.
Calibre, une émission en direct sur Radio Kaléidoscope.
Calibre, une antenne libre où poser des questions sans tabou ni jugement.
Tous les jeudis, de 20h à 21h, appelez-nous au 04 76 09 09 09.